Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous en 2018 comme en 2017. Un premier numéro 2018 qui me permet de présenter à tous les auditeurs de cette émission mes meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite pour cette nouvelle année. Si la fin de l'année est l'occasion de faire des bilans, le début est le moment des bonnes résolutions, comme on dit. En tout cas, celui où l'on essaie de se projeter dans l'avenir. Et l'avenir d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, passe entre autres par les investissements qu'elle réalise et planifie. Un sujet d'importance que nous n'avions jamais abordé jusqu'alors à Métropolez-vous, si ce n'est de manière éparse, en dédiant des numéros aux grands projets de la métropole toulousaine, ceux qui engagent son développement et son rayonnement pour les 15 ou 20 prochaines années. Afin d'avoir une vision plus globale des orientations et des enjeux en la matière, l'émission d'aujourd'hui va être consacrée à la politique d'investissement de Toulouse Métropole. Et lorsqu'il s'agit d'investissement, il est aussi question, bien sûr, de financement et d'aspects budgétaires. Je ne vais rien vous apprendre parmi les commissions et les domaines de compétences de Toulouse Métropole. Il y a en premier lieu les finances, qui demeurent, qu'on le veuille ou non, le nerf de la guerre. Il était donc tout naturel que nous recevions, pour parler de sa politique d'investissement, le vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances. Il s'appelle Sacha Briand et je suis très heureux de le recevoir pour la deuxième fois dans cette émission, dont il fut d'ailleurs le premier invité en juin 2016. Bonjour monsieur le vice-président. Merci d'avoir répondu à mon invitation et meilleurs voeux à vous aussi. J'ajoute que vous êtes également adjoint au maire de Toulouse et conseiller régional d'Occitanie. Puisque je viens d'évoquer le domaine dont vous avez la charge à la métropole, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que sont les responsabilités et missions du vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances ?
Alors c'est un travail ingrat qui consiste certes à présenter des vœux en début d'année, et je le fais à tous vos auditeurs et à vous-même, mais tout au long de l'année à essayer de tenir les contraintes du possible face au souhaitable que portent tous mes autres collègues élus et notamment en charge des délégations à Toulouse Métropole.
Parmi les missions, je suppose qu'il y a l'élaboration, le suivi, le contrôle du budget ?
Alors c'est bien sûr la procédure budgétaire que nous réalisons au mois d'octobre pour adopter le budget à la fin de l'année, au mois de décembre, et donc un travail de discussion avec toutes les délégations, toutes les directions et les élus concernés pour rapprocher leurs demandes qui sont toujours et systématiquement supérieures aux possibilités de nos marges et des possibilités qui sont aujourd'hui contraintes par les finances notamment de l'État.
Nous y reviendrons au cours de cette émission. La politique d'investissement là-dedans, ça représente aussi une des missions principales, vraiment ?
Ah, pour Toulouse Métropole, c'est vraiment un élément déterminant. Une métropole, comme le sont les structures intercommunales qui regroupent les communes, sont souvent chargées des missions et des compétences en matière d'aménagement et de développement, de préparer l'avenir. Et donc ça, au-delà de certaines compétences comme l'eau, l'assainissement ou le traitement des déchets ménagers, c'est essentiellement des compétences en matière d'investissement, d'aménagement de l'espace, d'amélioration de la voirie, des transports. Et donc, effectivement, ça se traduit concrètement par des volumes financiers importants en investissement.
Les finances d'une collectivité, vaste et important sujet. Merci de nous en avoir précisé les contours à Toulouse Métropole. On va s'intéresser de façon plus détaillée à la partie investissement dans quelques minutes. Le temps de faire un point sur l'actualité métropolitaine de ce début d'année. Grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire, Métropolez-vous, l'actu. Nous allons commencer l'année et ce flash avec une bonne nouvelle. La fréquentation de la Cité de l'Espace a atteint un niveau historique en 2017.
Oui, 400 000 visiteurs en 2017, un score jamais atteint jusqu'à présent. Un chiffre qui s'explique notamment par une bonne conjoncture et plusieurs actions conjuguées, à commencer par l'accueil du 30e Congrès mondial des astronautes en octobre, avec la présence d'une centaine d'astronautes de tous les continents. À cela s'ajoute un positionnement national et international de plus en plus marqué, accompagné par le renforcement des actions de promotion touristique menées par l'agence d'attractivité, le renouvellement aussi du planétarium par Toulouse Métropole, l'exposition temporaire en cours Astronautes. Autre point fort, la collaboration entre la Cité de l'Espace et les agences spatiales, les industriels, les laboratoires de recherche et le monde éducatif qui permet de rapprocher les thématiques spatiales du grand public.
Un beau succès évidemment, mais pour quel public, ou plutôt pour quel public au pluriel?
Oui, alors la fréquentation des individuels et des familles représente 2/3 des visiteurs. 40% sont des visiteurs de proximité, 45% un public national et 15% des visiteurs étrangers, multipliés par 2 en 5 ans quand même, il faut le noter. Le public scolaire avec 55 000 visiteurs est de plus en plus présent.
Le début de l'année, c'est le moment des vœux pour les élus, entre autres. Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole, s'est lui aussi livré à l'exercice.
En effet, des vœux à retrouver dans une vidéo filmée depuis le Quai des Savoirs et mise en ligne sur le site internet de Toulouse Métropole et sur Twitter, avec un mot-clé, innovation, un rendez-vous avec l'avenir qui passe par l'ESOF, la 8e édition de la plus grande rencontre interdisciplinaire sur la science et l'innovation en Europe. Elle aura lieu du 9 au 14 juillet 2018. À cette occasion, Toulouse deviendra la cité européenne de la science, une première en France. Quelques 5000 chercheurs du monde entier sont attendus. La métropole s'appuie pour cela sur ses formations académiques, ses formations donc et ses laboratoires de recherche portés par une communauté forte de plus de 100 000 étudiants et de près de 13 000 personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une projection réjouissante à l'heure où le projet d'initiative d'excellence des universités, le fameux IDEX, est passé entre les mains d'un jury international dans un contexte tendu.
Pour terminer ce flash, un dossier qui revient de temps à autre dans l'actualité, les actionnaires publics locaux ont écrit au Premier ministre pour demander à l'État de ne pas vendre ses parts de l'aéroport Toulouse-Blagnac.
Oui, mi-décembre, les 4 actionnaires publics de la société Aéroport Toulouse-Blagnac ont interpellé le Premier ministre par courrier pour exprimer leurs craintes face à l'éventualité de la vente par l'État des 10,01% de capital qu'il détient dans l'aéroport en faveur de Casil Europe, actuellement propriétaire de 49,99% du capital. Pour Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Jean-Luc Moudin, donc président de Toulouse Métropole, et Philippe Robardet, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, les turbulences apparues ces derniers mois en matière de gouvernance, avec l'annonce du départ du président du directoire et tout dernièrement de la présidente du conseil de surveillance, nous interrogent d'autant plus sur la stabilité du 4e aéroport de province, ont-ils dit. En tant que décideur public, ces 4 actionnaires font valoir leur responsabilité de prévoir l'évolution de ce dossier stratégique afin d'assurer la qualité de vie des riverains et de maîtriser l'attractivité et le développement du territoire. Ils demandent à l'État de renoncer à exercer son option de vente.
Sacha Briand, je suis certain que vous avez envie de réagir à plusieurs des informations présentées dans ce flash et peut-être même avez-vous quelques précisions à apporter?
Je crois notamment sur le dernier sujet que vous venez d'évoquer, l'aéroport, puisque je participe aux travaux du conseil de surveillance. Nous avons effectivement besoin de cet outil de développement et d'aménagement de notre territoire et qu'il faut donc une gouvernance apaisée et qui s'inscrive dans cette logique, certes, de rationalité de l'activité d'une entreprise, puisque c'est une entreprise, et que l'État a décidé de céder les parts à un investisseur privé, mais aussi d'avoir une vision à long terme pour l'aménagement de territoire. Et de ce point de vue-là, la position de Jean-Luc Moudin qui a toujours été constante et de demander aujourd'hui à ce que l'État renonce à céder les 10 derniers pourcents qu'il détient pour garantir une stabilité et une capacité de négociation à l'intérieur de cette société.
L'information qui concerne le label IDEX là, pour l'université Toulouse Midi-Pyrénées, je pense que c'est quelque chose aussi qui est suivi de près à Toulouse Métropole parce que ça engage beaucoup le rayonnement de notre formation universitaire.
Alors l'université de Toulouse, dans son histoire, elle est très ancienne, depuis le XIIe siècle. L'université de Toulouse est un atout fondamental de notre capacité à l'innovation et au développement. Les collectivités locales, et notamment Toulouse Métropole, soutiennent fortement la recherche et l'enseignement supérieur, alors que c'est une compétence de l'État. Dans ce cadre-là, je pense que les universités ont une responsabilité historique. Après l'échec lié au retrait du label IDEX, elles ne doivent pas rater la nouvelle occasion qui leur a été offerte de manière exceptionnelle. Je salue la décision du conseil d'administration de l'université Jean Jaurès d'approuver et de rentrer dans le cadre de l'université fédérale, mais il faut que les universitaires assument leurs responsabilités et je considère qu'ils n'ont pas le droit à l'échec et que ce serait une faute majeure pour l'université toulousaine si nous ne pouvions pas récupérer ce label IDEX.
Merci pour cette information et cette précision très importante. Nous allons maintenant revenir avec vous au sujet principal de cette émission, la politique d'investissement de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropolez-vous avec notre invité Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse, conseiller régional d'Occitanie et vice-président de Toulouse Métropole en charge des finances. Avant d'entrer avec vous dans le détail des investissements de Toulouse Métropole et de la politique que mène la collectivité métropolitaine en la matière, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter les principaux types d'investissements que doit ou peut engager une métropole comme Toulouse? Alors moi, comme ça, je suis peut-être un peu béotien en la matière. Je vois deux grandes familles, des investissements qui correspondraient ou qui seraient engagés pour maintenir ou rénover des choses existantes, que ce soit des équipements ou des matériels, et puis des investissements vraiment sur de grands projets qui engagent là le développement et l'avenir de la métropole. Il y en a peut-être d'autres, alors donnez-nous le détail.
Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que les gens ignorent souvent, c'est que la base, c'est les communes et les compétences communales. Et les communes ont une compétence, ce qu'on appelle une clause de compétence générale. Et puis il y a les structures intercommunales, et la métropole en est une, qui regroupe 37 communes sur l'agglomération. La métropole ne peut faire que ce que les communes ont décidé de lui confier. Donc c'est une structure qui est limitée dans ses compétences, des compétences d'attribution. Et donc, ça n'est pas, la métropole n'a pas vocation à intervenir dans tous les domaines. Elle n'intervient que pour ce qui lui a été attribué. Et de ce point de vue-là, nous avons effectivement des compétences spécifiques avec un patrimoine. Par exemple, l'orchestre, les grands équipements métropolitains ont été transférés au 1er janvier 2016 à Toulouse Métropole. L'orchestre, le théâtre du Capitole, le Zénith, le Stadium, le Muséum, la Cité de l'Espace, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Eh bien, nous assurons naturellement l'entretien, le développement, la rénovation du planétarium pour renouveler l'attractivité de cet équipement. Et puis, à côté de cela, il y a quelque chose qui est très important, c'est tout le patrimoine routier, qui est très important également. Nous avons sur le mandat près de 500 millions qui est alloué à la fois à l'entretien du patrimoine routier et puis à la création d'axes nouveaux pour accompagner le développement. Ça, c'est tout l'entretien d'un patrimoine extrêmement important, mais limité sur certaines compétences. Et puis après, eh bien, c'est toute la politique d'aménagement de développement, l'habitat notamment, pour pouvoir faire face à l'afflux de population, puisque notre agglomération est la plus dynamique de France. L'INSEE vient de le confirmer récemment avec les chiffres de la population. Et donc là, il faut accompagner, créer des axes nouveaux, des réseaux nouveaux, accompagner le développement des transports en commun, permettre l'ouverture à l'urbanisation de secteurs pour pouvoir faire face à l'afflux de cette population. Ce sont des compétences extrêmement onéreuses et nous avons le devoir d'y mettre les crédits nécessaires.
Est-ce que l'emploi, le soutien à l'emploi en tout cas, est aussi un domaine important de la politique d'investissement de la métropole ?
Alors naturellement, le développement économique est d'abord une compétence régionale sur laquelle intervient fortement Toulouse Métropole avec pratiquement 200 millions sur le mandat, à la fois dans le soutien de l'innovation. Nous avons dans le quartier Montaudran l'Institut Toul'IRT qui va porter et accueillir des entreprises innovantes et sur lequel Toulouse Métropole investit fortement, avec en appui naturellement la région notamment. Et puis, il faut favoriser le développement des entreprises. Nous avons adopté un schéma de développement économique qui nous permet aussi de spécialiser les espaces et de permettre aux entreprises de trouver des espaces pour s'installer, des conditions de circulation qui soient satisfaisantes pour pouvoir développer leurs activités et naturellement favoriser au travers de cela la création d'emplois, parce que si nous avons une population qui se développe fortement, il faut faire en sorte que cette population puisse trouver de l'emploi sur place.
Domaine qui intéresse beaucoup les citoyens, l'éducation. Est-ce que l'éducation dans la politique d'investissement, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui représente une part importante pour la métropole, ou est-ce que c'est vraiment les communes?
Alors je le disais tout à l'heure, la métropole fait ce que les communes lui ont confié. Et notamment la politique éducation en primaire et maternelle reste de la compétence communale. C'est donc les communes qui assurent la construction des écoles, leur entretien et leur fonctionnement. La ville de Toulouse y consacre un budget extrêmement important, hein, près de 200 millions d'investissements sur le mandat avec la création de 10 nouveaux groupes scolaires pour accompagner la progression de la population scolaire qui découle de la progression de la population totale.
C'est un point qu'il fallait bien préciser. Alors, vous avez déjà parlé des chiffres. Le montant global des investissements sur le mandat actuel, 2015-2020, c'est combien ?
Sur Toulouse Métropole, la programmation pluriannuelle des investissements métropolitains adoptée en 2015 se situe à 1,45 milliard d'euros. Pratiquement 1,5 milliard. Mais il faut ajouter à cela aussi tout ce qui est porté par le syndicat des transports au travers du plan de déplacement urbain qui, sur la période 2015 la plus loin 2030, porte sur 3,8 milliards d'euros au-delà de la troisième ligne de métro avec le développement des linéos et de tous les réseaux de bus. C'est aussi Toulouse Métropole Habitat qui porte un programme d'investissement pour la création des logements à habitation modérée. C'est également Europolia qui porte, par exemple, le projet de parc des expositions. Donc, quand on cumule tout sur le mandat, les pouvoirs publics, communaux Et Métropolitain, c'est pratiquement 4 milliards d'investissements sur ce mandat. C'est absolument considérable. Et 1,5 milliard au niveau de Toulouse Métropole, sachant que nous travaillons actuellement à l'actualisation de cette programmation pour prendre en compte les évolutions des projets sur le mandat.
Sur ces 1,5 milliard, est-ce qu'on va voir les grandes masses, c'est-à-dire les grands domaines concernés? Vous en avez évoqué un tout à l'heure, vous avez parlé de 500 millions. C'est ce qu'on appelle la mobilité, donc les transports et les déplacements. Il y en a d'autres.
Ah oui, 500 millions grosso modo pour la mobilité et notamment pour la voirie, puisque les transports collectifs, c'est le syndicat des transports qui le porte principalement, même si Toulouse Métropole cofinance des aménagements de voirie pour les bus en site propre, les choses comme ça. Nous avons 260 millions pour l'habitat et le cadre de vie, c'est toute la politique de production de logement social qui est mise en œuvre. Près de 200 millions pour la compétitivité économique dont on vient de parler. Un peu plus de 120 millions sur la gestion maîtrisée des ressources et qui prend en compte notamment toute la politique de déchets et de maîtrise de l'énergie, et puis après des volumes plus limités sur l'entretien et la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire l'entretien de notre patrimoine hors voirie, qui se situe autour de 60 millions avec des équipements culturels et sportifs. Et puis après, il y a le volume, ce qu'on appelle les grands travaux, dans lequel il y a les grands projets, la LGV, qui pour le moment est en attente de décision du gouvernement, Tezo, c'est tout le quartier autour de Matabio, qui commence à prendre son envol de façon limitée autour de la gare pour le moment, mais qui a une vocation importante à moyen terme, en accompagnement justement de l'arrivée de la LGV. Et en l'état actuel, c'est principalement le parc des expositions, qui est un outil d'attractivité du territoire pour faire en sorte que notre agglomération puisse accueillir des manifestations internationales.
Alors ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que bon, dans tous ces grands projets, il y a une part investie par Toulouse Métropole, mais il n'y a pas que Toulouse Métropole qui investit dans ces grands projets. Il y a aussi d'autres partenaires, publics et privés. Est-ce qu'on peut les citer, ces partenaires?
Alors pour l'essentiel, le financement des investissements fait l'objet de subventions selon les investissements et en fonction des souhaits des autres collectivités, par exemple du conseil régional et du conseil départemental. Sur le parc des expositions, nous avons le soutien du conseil régional à hauteur de l'ordre de 45 millions d'euros, et du département autour de 30 millions en l'état des discussions. Après, pour le reste, il y a des financements européens qui interviennent, mais souvent ciblés sur des axes très particuliers. C'est notamment le syndicat des transports qui a bénéficié de subventions importantes sur les études pour la troisième ligne, parce que c'est un projet qui est identifié par l'Union européenne comme étant très structurant pour notre territoire et porteur de développement économique. Et puis bien sûr, il y a le financement, par exemple, du logement social, l'aide à la pierre par l'État. Donc il y a un certain nombre de financements essentiellement publics. Le modèle du financement par le secteur privé est un modèle sur lequel il ne faut pas se tromper. Les entreprises privées, elles investissent dans des projets lorsqu'il y a une rentabilité opérationnelle derrière. Et de ce point de vue-là, les pouvoirs publics, eux, ont une activité qui est essentiellement consacrée à des activités qui n'ont pas une vocation de productivité ou de rentabilité du moins.
Alors, lorsqu'une politique d'investissement est définie au niveau d'une collectivité, je suppose qu'il y a des priorités qui sont définies aussi en même temps. Quelles sont-elles pour la politique en cours ?
Clairement, les priorités définies par Toulouse Métropole, c'est d'abord au travers du syndicat des transports, la politique de transport collectif. Et parallèlement à cela, l'entretien et le développement de la voirie, parce que notre agglomération, les transports collectifs, c'est à peu près 20%. On essaye d'améliorer la part modale, ce qu'on appelle la part modale des transports collectifs, mais les déplacements dans une agglomération très étendue où les gens habitent en première couronne et viennent travailler sur les secteurs qui sont extrêmement localisés, c'est aujourd'hui toujours une progression très forte des développements de véhicules. Et de ce point de vue-là, la troisième ligne de métro, elle a vocation à relier les pôles d'emploi du Sicoval au centre-ville et à la zone aéronautique et aéroportuaire du secteur nord-ouest, et donc à apporter une réponse qui n'existe pas aujourd'hui sur le déplacement domicile-travail. Donc c'est quelque chose qui est très important pour essayer de traiter la question de la congestion automobile. Mais là, on voit bien que le déplacement, c'est quelque chose qui est très important dans les arbitrages. Et puis derrière, le développement économique, parce qu'il faut créer des emplois. Et il faut accueillir, donc c'est l'aménagement et le logement.
Et l'habitat.
Voilà les pôles, hein, déplacement, emploi, logement. Faire en sorte que les gens qui viennent de notre agglomération y trouvent un emploi, un logement, et puissent se déplacer de l'un à l'autre dans de bonnes conditions.
La baisse des dotations de l'État, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une nécessité de faire des économies, de réduire des dépenses. Comment on fait pour maintenir une politique d'investissement ambitieuse dans un tel contexte ?
Ça a été tout le débat qui a animé le Conseil de Métropole en 2015. Nous avons présenté une stratégie budgétaire qui prenait en compte la baisse des dotations de l'État annoncée après les élections municipales par le gouvernement de Manuel Valls et de François Hollande, et qui avait été absolument pas annoncée préalablement, puisque François Hollande s'était même engagé sur une stabilité des dotations. Donc il nous a fallu faire face à ce désengagement brutal de l'État, et donc on a adopté une stratégie fiscale, une stratégie d'investissement pour le mandat qui prenait en compte le fait que Toulouse Métropole, sur le mandat, perdait 270 millions de dotations de l'État, ce qui est tout de même considérable à rapporter aux 1,5 milliard d'investissements. Et à partir de là, nous avons essayé de tenir cette stratégie et ce volume en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les directions et les élus concernés chaque année. Maîtriser les dépenses de fonctionnement pour conserver une capacité d'investissement, c'est ça la clé de notre stratégie. Et aujourd'hui, avec la dernière loi de finances pour 2018 qui vient d'être votée par le Parlement, il nous faut nous inscrire dans une dynamique pérenne de stabilité des dépenses, puisque le budget des collectivités locales devra respecter un taux d'évolution des dépenses de l'ordre de 1 à 1,2% inflation comprise. Et quand on sait que, par exemple, la masse salariale, même sans recruter de nouveaux agents, évolue mécaniquement, ça veut dire qu'il faut continuer à faire des efforts en permanence, année après année. Nous sommes passés d'une ère, depuis les années 80 et le transfert de compétences de la décentralisation, où chaque année, il y avait toujours un peu plus d'argent, à une ère où durablement nous aurons chaque année autant, mais pas plus, d'argent que précédemment, et où il faut chaque année trouver des économies, et trouver de l'innovation et arbitrer différemment.
Est-ce que cette situation a pu ou pourrait remettre en cause certains investissements, en tout cas certains niveaux d'investissement prévus aujourd'hui dans la politique d'investissement telle qu'elle a été définie?
Alors, par hypothèse, on va considérer que quand on a décidé d'investir dans un domaine, c'est qu'il y avait un besoin. Si le besoin évolue, il faut être capable d'agilité budgétaire et donc de revenir sur des arbitrages antérieurs si on considère que la réponse à apporter n'est peut-être pas favorable ou cohérente par rapport au besoin. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait un besoin et qu'il fallait intervenir, c'est difficile de revenir dessus. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord essayer de le faire dans les meilleures conditions financières. On n'est pas obligé de dépenser toujours plus pour répondre aux mêmes besoins. Et il faut voir dans les nouvelles technologies, dans les évolutions technologiques qui arrivent aujourd'hui, comment on peut trouver des réponses qui soient mieux adaptées à la réponse des besoins. C'est notamment ce travail de modernisation de l'action publique qui doit nous permettre de remplacer quelque chose qui coûte X par une autre action qui, si possible, va coûter moins cher et qui va répondre de la même manière, voire parfois mieux, à la demande des administrés.
Comment sont réalisés les arbitrages dans ce cas-là? Ça se discute en commission finance avec l'ensemble des délégations? Comment ça se passe?
Ce sont des discussions parfois tendues, où les délégations et les élus concernés viennent présenter leurs projets, leurs souhaits, leurs besoins, et où on rapproche ça des possibilités. Et à partir du moment où les délégations ont travaillé et élaboré leur budget dans le respect de la note de cadrage, qui forcément impose une stabilité des crédits, on arrive à trouver les compromis. La difficulté, c'est lorsqu'il y a des demandes nouvelles qui exigent des crédits supplémentaires, et que ces crédits, on ne les a pas. Et donc là, il faut trouver les moyens de remettre en cause des dépenses existantes ou de les améliorer pour pouvoir dégager les ressources nécessaires. C'est tout ce travail d'agilité budgétaire que nous tentons de faire chaque année.
Est-ce qu'il y a des exemples d'investissements prévus qui ont été revus, arbitrés depuis le début du mandat?
Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui ont été remis en cause, malheureusement sur le plan budgétaire, mais heureusement sur le plan de la réponse aux besoins. Sauf à considérer qu'il y ait eu des investissements décidés qui n'étaient pas satisfaisants, c'était compliqué. Alors, je vais prendre un exemple quand même pour essayer de montrer l'arbitrage ou la priorisation. Quand on a élaboré la programmation pluriannuelle des investissements métropolitains, on a identifié 3 projets importants sur lesquels nous avions besoin sur le mandat de 90 millions de budget. C'était d'une part le secteur sud-est pour la réalisation des voiries de la jonction est ou de la LMSE, sur le secteur nord pour entamer la réalisation du boulevard urbain qui va de Toulouse jusque Bruguière,
le fameux Bune,
et sur le secteur nord-ouest avec des travaux d'aménagement sur les accès aux sites aéronautiques sur lesquels la congestion automobile était extrêmement complexe. Nous avons proposé aux communes de prélever 90 millions sur le programme habituel de voirie, qui était de 540 millions et qui était réduit à 450 millions sur le budget pour pouvoir financer ces 3 grosses enveloppes nécessaires. Et un travail de négociation pour affecter les moyens sur les priorités.
Est-ce qu'il existe des projets d'investissement qui sont encore en cours de discussion ou dont les montants n'ont pas encore été définis précisément ? Et je pense notamment à ce très gros projet qui est la troisième ligne de métro, dont j'ai en tête le montant d'investissement prévu, 2 milliards 2, 2 milliards 3. Est-ce que ce chiffre est confirmé et est-ce qu'a priori il devrait être de cet ordre-là ?
La troisième ligne de métro, nous avons arrêté au sein du syndicat des transports le tracé de principe du Sicoval jusque à Colomiers-Gare et les évaluations que nous avons et que nous tenons, ça c'est très important, se situe effectivement autour de 2,2-2,3 milliards d'euros. Alors, bien sûr, un projet qui s'étale sur 10 ans, c'est un projet sur lequel il y a des actualisations de coûts, l'inflation, etc. Mais nous avons pris en compte cela, et chaque fois que nous constatons une évolution sur une estimation, nous essayons de trouver des économies sur le programme, pour essayer d'avoir et de tenir.
Regardez l'enveloppe prévue
voilà,
au départ.
Sur les 3,8 milliards du plan de déplacement urbain sur la période 2015-2030, nous avons 2,2 milliards, 2,3 milliards effectivement alloués à la troisième ligne de métro, qui représentera demain le quart de la fréquentation du réseau de transport en commun. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et je le redis, qui desservira les zones d'emploi, et ça c'est quelque chose d'essentiel pour lutter contre la congestion automobile.
Je pense que c'est effectivement un projet dont la réalisation est très attendue. Eh bien, nous allons terminer cette émission sur ce projet de troisième ligne de métro. Merci beaucoup Sacha Briand d'être venu à Métropole et vous, de nous avoir fait partager votre expertise et nous avoir donné toutes ces précisions sur la politique d'investissement de Toulouse Métropole. Les investissements réalisés aujourd'hui conditionnent en grande partie le développement et l'avenir de la métropole toulousaine. Raison suffisante pour les contribuables que nous sommes tous d'en connaître le détail, la répartition et les domaines concernés. C'était le but de cette émission et j'espère que nous aurons réussi à vous donner quelques précieux éclairages sur le sujet. Si vous voulez le creuser encore et en savoir plus, vous pouvez bien sûr consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, en tapant investissement dans la barre de recherche. Vous aurez ainsi tout le détail des investissements du mandat en cours. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.